Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nexcloud, un logiciel libre d'hébergement et de partage de fichiers, d'agendas, de contacts et bien d'autres fonctionnalités encore. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la présentation du projet Sortir du cadre, un film et une série documentaire sur les artistes et les œuvres sous licence libre dans l'art. Et aussi en fin d'émission, la chronique La Pituite de Luc qui portera sur le thème « Mieux vaut demander pardon que demander la permission ». Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Sur le site de l'association april.org, vous pouvez d'ores et déjà retrouver une page avec les références utiles pour l'émission du jour. Page qui sera complétée après l'émission en fonction de nos échanges. Nous sommes mardi 18 février 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez participer à notre discussion, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de la radio. Vous allez sur le site de la radio, causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous nous rejoignez sur le salon dièse libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Nous allons passer au programme de l'émission. Alors nous commencerons dans quelques secondes par la chronique « Le libre fait sa com » de ma collègue Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, qui va interviewer Tristan Duval du projet « Sortir du cadre », un film et une série documentaire sur les œuvres et les artistes sous licence libre dans l'art. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur Nexcloud, site d'hébergement et de partage de fichiers avec de nombreuses autres fonctionnalités, avec Nina Cercy, représentante France chez Nexcloud, et François Poulain de la société CLIS 21 et membre de l'équipe du Chapril, site qui propose des services libres. En fin d'émission, nous aurons donc la chronique de Luc qui portera sur le thème un peu mystérieux « Mieux vaut demander pardon que demander la permission » et ce, en présence exceptionnelle de Luc qui devrait arriver au studio en cours de l'émission. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors nous allons passer tout de suite au premier sujet. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April. Annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements. C'est la chronique « Le libre fait sa com » de ma collègue Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isabella.
Bonjour.
Et je te passe la parole pour la chronique du jour.
Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir pour notre chronique « Le libre fait sa com » d'avoir avec nous Tristan Duval, qui est co-réalisateur du film documentaire « Sortir du cadre », donc qui traite du processus créatif, du droit d'auteur, des licences libres, de libre diffusion. Tristan, tu es avec nous, tu nous entends bien ?
Oui, je vous entends bien, bonjour.
Bonjour, bienvenue. Donc je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que le film dont nous allons parler en fait est en cours de création, de production, et a besoin d'être soutenu. Donc je te laisse commencer par une présentation de ce projet. Qu'est-ce que c'est Sortir du cadre ?
Alors Sortir du cadre, c'est un film et une série sur les artistes et les œuvres sous licence libre et plus largement sur les questions de rémunération des artistes, du droit d'auteur, des licences libres, de la création artistique et de sa diffusion. Donc on est deux réalisateurs, il y a Pablo Albandea et moi-même qui sommes tous les deux membres de l'association Lancine. À la base du projet, en fait, l'association Lancine, on produit et on diffuse des films sur licence libre et on promeut le libre. Et en fait, c'est un petit peu compliqué, notamment pour cette question de promouvoir le libre, puisque parmi les gens qui font des films, très peu comprennent l'intérêt des licences libres, voire même écoutent quand on parle de licences libres. Et donc chaque année, on organise un festival qui s'appelle Nos désirs sont des ordres, festival de films libres de critique sociale. Et pendant une édition, on a organisé un temps d'échange sur les licences libres pour essayer d'en parler collectivement et d'en parler à un public plus large. Et en fait, il y a trois personnes qui sont venues. Et ça a été un peu compliqué et ça a été un peu un échec pour nous. Et donc, on s'est dit que c'était...
Ou alors, c'était la confirmation de ce que vous disiez. Peut-être. Peut-être que c'était pas un échec,
oui,
c'était
oui,
la confirmation.
Oui, oui, c'était aussi la confirmation. Mais donc, on s'est dit que c'était qu'il fallait plus que ça pour que les gens comprennent l'intérêt. Et c'est comme ça qu'on est parti sur l'idée d'en faire un film pour prendre le temps d'expliquer l'intérêt et aussi les tenants et les aboutissants.
Très bien. Et ce projet, en fait, il est né quand ? Depuis quand il est en production ?
Alors, on a commencé à y réfléchir à l'été, enfin en parler à l'été 2018, et on a commencé le premier entretien en novembre 2018.
D'accord, donc ça fait déjà quelques mois, plusieurs mois, oui. Disons.
Oui, oui.
Et en fait, le film, donc j'ai regardé un petit peu de quoi il s'agit, le contenu. C'est plutôt intéressant parce que il va traiter d'un sujet assez technique, juridique, comme les licences libres et de libre diffusion. Donc il y a aussi un juriste, Benjamin Jean, qui a interviewé notamment pour expliquer en détail de quoi il s'agit. Mais il ne pouvait pas être un film que sur ça, donc vous avez voulu mettre en exergue, vous avez voulu mettre en valeur aussi le processus créatif, donc en filmant des artistes, en montrant des images, etc. Et du coup, je me demande comment vous avez choisi en fait les artistes, les personnes qui sont interviewées et qui apparaissent dans le documentaire.
Alors, bah, en fait, on est parti en cherchant tout simplement sur Internet pour le temps d'échange qu'on avait voulu organiser pendant le festival. On avait commencé par là et on avait demandé à deux personnes, Joseph Parry, qui est un cinéaste qui a créé le collectif Cassandre et qui est un des pionniers du cinéma sous licence libre, et à Antoine Moreau. Et en fait, Antoine Moreau ne pouvait pas, donc Joseph Parry devait intervenir pendant la conférence. Et donc, c'est vers lui qu'on s'est tourné le premier, donc on a été voir. C'est avec lui qu'on a fait le premier entretien. Donc ensuite, comme on était aussi en contact avec Antoine Moreau, c'est avec Antoine Moreau qu'on a fait le deuxième entretien. Et il y a d'autres personnes qu'on a contactées parce qu'on avait vu leur projet sur Internet. Et il y a des personnes qu'on a contactées parce que les personnes avec qui on avait fait un entretien nous avaient dit bah, vous devriez aller voir telle personne, ça va être intéressant. Et donc, parmi la base des gens qu'on voit, c'est leur lien avec les licences libres ou les licences de libre diffusion. Et donc, par exemple, il y a un juriste, Benjamin Jean, qui est aussi membre de Framasoft et qui est aussi lui-même artiste puisqu'il fait de la musique. Et ensuite, il y a un cinéaste, il y a des gens qui font plutôt de l'art contemporain, il y a plusieurs cinéastes, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font de la bande dessinée, il y a des gens qui font illustrateurs. Donc voilà, l'idée c'était aussi de
présenter un peu tous les domaines finalement de l'art.
Exactement.
D'ailleurs, parmi les personnes qui sont interviewées, il y a aussi Géant, qui est scénariste et développeur du projet Zemmermotte, dont on a eu le plaisir de parler dans notre émission. Et on connaît bien aussi Guy, qui est auteur dessinateur d'une bande dessinée, qui est très connu par les personnes qui connaissent Framasoft notamment, et pas que. Et donc, vous avez essayé de présenter plusieurs on va dire, domaines. Et en fait, le film, tu disais, il a commencé à être produit en 2018. Comment ça se fait qu'il tarde, comment dire, à sortir ? Qu'est-ce qui vous en empêche ? Je sais que le financement, ça n'a pas été hyper facile à trouver. Tu peux nous en dire un peu plus sur les moyens de financement?
Et ben en fait, pour l'instant, les moyens de financement, c'est notre propre argent à Pablo et à moi, et un petit peu d'argent de l'association aussi. On a écrit pas mal de dossiers pour demander des aides à des régions et à des fondations. On a eu que des refus pour l'instant, donc ce qui est un peu compliqué, c'est que là, en plus de nous mettre de l'argent pour l'instant pour le film, en fait, ça nous force à faire le film sur notre temps libre. Donc c'est pour ça qu'on n'avance pas très vite.
Bien sûr. Donc vous avez proposé, soumis en fait votre dossier, notamment des collectivités et des fondations, ouais. Et tu me disais, mais peut-être qu'on ne reçoit même pas les financements parce que ces structures non plus comprennent l'intérêt en fait de proposer une autre façon de diffuser son art. C'est peut-être lié à ça et peut-être que ce film va mieux expliquer l'intérêt de le faire et va peut-être permettre de financer davantage ces œuvres. En tout cas, on l'espère.
Bah oui, c'est aussi notre objectif. En fait, parce qu'avec ce film, enfin, on le voit bien en ce moment, notamment avec les artistes de bande dessinée là, avec le festival d'Angoulême qui a eu il y a pas longtemps, où maintenant on commence à se rendre compte que les auteurs sont très mal payés, que les dessinateurs sont très mal payés, que les artistes en général sont très mal payés. Et que donc peut-être qu'il y a un problème. Alors que les personnes qui sont dans les jurys et dans les qui donnent les aides, en fait, c'est plutôt des personnes qui ont réussi et qui vivent du droit d'auteur et qui vivent de leur art. Donc en fait, ils ont du mal à comprendre qu'on remette en cause ce système-là.
Il y a une distance en fait entre les deux mondes. Donc c'est plus compliqué finalement de demander des financements auprès de ces structures. Du coup, je pense que c'est le moment, c'est arrivé de dire comment on peut faire pour vous aider à réaliser votre projet. Donc comment faire pour permettre à ce film de voir la lumière, de sortir.
Eh ben, il y a deux façons principales et après il y en a d'autres pour nous aider. Mais dans l'immédiat, c'est de donner. Pour trouver la page, je pense que ce sera sur votre site.
Tout à fait. On a prévu de mettre le site, le lien au site de la plateforme où faire le don.
Et sinon, sur notre site L'Enfiné, en tapant L'Enfiné dans un moteur de recherche, vous trouverez assez facilement. Donc il y a donner et puis il y a aussi faire connaître la campagne de financement et faire connaître le film au plus de gens possible. Et après, pour un peu plus tard, on a aussi besoin un peu d'aide pour quelques tâches, par exemple la retranscription d'entretien, la création de sous-titres ou la traduction dans d'autres langues.
Très bien. Je ne sais pas si j'ai encore le temps pour une question. En fait, j'ai vu que ce film sera publié sous son licence libre, mais dans le passé, votre association a diffusé des films soit sous licence libre, soit sous licence de libre diffusion. Donc on rappelle que les licences de libre diffusion peuvent avoir des clauses, par exemple non commerciales ou non dérivatives, donc on ne peut pas modifier l'œuvre. Et dans votre film, vous parlez des deux licences. Donc il y a des artistes qui ont choisi une licence voire l'autre. Qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour une licence ou l'autre dans le passé et pourquoi vous avez choisi la licence libre pour ce film?
Alors en termes de création, en fait au départ nous on vient pas du tout des mouvements du logiciel libre, donc on connaissait pas du tout ça et donc on a un peu appris sur le tas et on a compris la philosophie en allant. Et au début, c'était aussi surtout pour des questions de droit sur des musiques, par exemple.
D'accord.
Je disais que, on mettait sous licence non commerciale parce que la personne qui avait fait la musique nous le demandait.
D'accord.
Et après, mais au fur et à mesure, on a avancé sur la philosophie et on est plutôt sur les licences libres maintenant, prioritairement.
D'accord.
Et après, en termes de diffusion de films, là, on diffuse principalement des films sous licence de libre diffusion. Tout simplement parce qu'il y a très très peu de films sous licence libre et déjà les licences de libre diffusion c'est un peu une bataille pour faire comprendre aux gens l'intérêt et parce que par exemple même des tout petits films qui passent nulle part qui vont jamais rapporter un centime il y a plein de gens qui s'imaginent même pas le mettre sous licence libre parce qu'ils ont peur de perdre leur œuvre. Et qu'il y ait des gens qui vont en faire n'importe quoi, voilà.
D'où donc, vraiment l'intérêt d'expliquer en quoi il s'agit, de quoi il s'agit, comment ça fonctionne.
Exactement.
Bah, écoute, et Tristan, notre interview est arrivée à son terme. Je te remercie énormément d'avoir participé. Je rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent qu'il est possible de soutenir ce projet. Vous avez la référence, le lien sur la page dédiée à l'émission sur april.org. Et j'espère vraiment que le film puisse voir la lumière très, très tôt.
Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à nouveau. Au revoir.
Alors merci revoir. Tristan et merci Isabelle. On va rappeler que pour la campagne de dons, il reste 13 jours, que l'objectif c'est 2 500 € et qu'actuellement ils sont à 75%. Donc les références sont sur le site de l'April, april.org, mais vous pouvez aussi les retrouver sur le site de l'association Lenciné, donc lentcine.tuxfamily.org. Et n'hésitez pas à contribuer, donc il reste 13 jours, il y a 25% à contribuer pour permettre d'obtenir l'objectif. Et par rapport à l'appel pour les transcriptions d'entretien, je suppose que Marie-Odile Morandi de l'équipe Transcription de l'April qui nous écoute se portera volontaire pour aider à faire les transcriptions d'entretien. Donc voilà, c'était la chronique Le Libre fait sa com de ma collègue Isabella Vanni. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter Anime Girl par Anozira. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Anime Girl par Anozira, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur Nextcloud, un logiciel libre d'hébergement, de partage de fichiers, d'agenda, de contacts et bien d'autres fonctionnalités que vont nous présenter nos deux invités, à commencer par Nina Cercy, représentante France chez Nextcloud. Bonjour Nina.
Bonjour Frédéric.
Et François Poulain de la société CLIS21 et membre de l'équipe du Chapril qu'il présentera également tout à l'heure. Bonjour François.
Bonjour Frédéric.
Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web de la radio, sur le site causecommune.fm, bouton chat, vous nous rejoignez sur dièse libre à vous et si vous avez des réactions ou des questions, je les relayerai évidemment à nos invités. Alors avant de commencer sur le cœur du sujet, on va faire un petit tour de table de présentation personnelle. On va commencer par Nina. Qui es-tu Nina? Nina Cercy.
Alors, qui je suis? Donc on va, aujourd'hui on va rester sur la partie Nextcloud, mais disons que moi je milite dans le milieu du logiciel libre depuis quelques années déjà. Chez Nextcloud, j'ai plusieurs casquettes, dont le point commun en fait est la France, avec un côté communautaire qui est plutôt sur des problématiques d'évangélisation, et un côté plus entreprise en tant que gestionnaire de compte, ce qui est mon titre officiel on va dire chez Nextcloud, ce qui signifie qu'en fait je m'occupe de gérer le parcours et l'implémentation de Nextcloud au sein des entreprises.
D'accord. Et de ton côté, François Poulain ?
Moi je suis membre de l'April depuis assez longtemps, 2005. Je suis aussi impliqué administrateur. Je fais la trésorerie aujourd'hui. Et puis, ouais, comme tu dis, je travaille chez CLIS21, une petite coopérative. On est 8 personnes dans l'équipe, 6 salariés et 2 bénévoles. Et ça se passe dans le Nord, entre Lille et Lens, à peu près.
J'ai cité le nom Nextcloud, alors pas sûr que les gens aient entendu parler du nom de ce logiciel. Donc déjà, première question, tout simplement, c'est quoi Nextcloud? Le contexte, d'où ça vient? Quel problème ce logiciel cherche à résoudre? Ou quelle fonctionnalité permet-il d'obtenir? Donc on va commencer par Nina, donc Cercy, qui est représentante de France sur Nextcloud, de nous faire une petite présentation générique voilà, sur le contexte.
Alors, je pense que pour bien comprendre ce que fait Nextcloud, en fait, il faut remonter en 2008 à peu près et se demander à quoi ressemblait l'informatique en 2008. Donc, pour nos auditeurs et auditrices qui seraient trop jeunes pour s'en souvenir, c'était beaucoup de clés USB et beaucoup de documents envoyés par email avec beaucoup de versions de documents, ce qui était assez fastidieux et permettait pas toujours de s'y retrouver. Et dans ce contexte, il y a quelques entreprises qui ont très bien compris qu'il y avait là une opportunité de développer des services qui allaient vite devenir indispensables hein, aux utilisateurs et aux utilisatrices. On va citer les plus connus, hein, Dropbox, Google, etc., qui ont en fait ouvert des espaces en ligne de partage et de collaboration sur les fichiers, avec au départ comme offre le fait de pouvoir synchroniser tout simplement ces fichiers. Alors que j'ai oublié mon exposé en arrivant en cours, et ben je me connecte sur l'ordi de la classe, je vais dans mon espace Dropbox, et c'est super, mon exposé est là dans sa dernière version. Le problème, c'est ce document, en fait, il est où? Il n'est pas sur mon ordinateur, il n'est pas sur l'ordinateur de ma classe, il est sur les serveurs de Dropbox ou sur les serveurs de Google, sans aucune maîtrise possible de la part de l'utilisateur. Nextcloud, en fait, ça a été conçu comme une réponse à ce problème. C'est-à-dire qu'on a développé un espace qui présente la même valeur, donc on pouvait synchroniser, partager ses fichiers, les avoir toujours dans sa dernière version, et surtout les terminaux qu'on utilisait, qui présentait le même intérêt, la même facilité d'utilisation, mais avec deux libertés supplémentaires. D'une part, la liberté du code, puisque l'intégralité du code est open source, peut donc être modifiée, redistribuée et adaptée aux usages des personnes qui l'utilisent. Et la deuxième liberté, qui pour moi est la plus importante, c'est le fait de pouvoir choisir où tout cela se passe. Si vous n'avez confiance en personne, vous pouvez héberger votre Nextcloud sur votre petit serveur, sur votre cheminée, si vous avez une cheminée. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une cheminée, bien sûr. Mais en revanche, si vous vous dites que vous n'êtes pas capable de gérer du logiciel, pas capable de l'héberger chez vous, vous pouvez tout à fait choisir de l'héberger chez le fournisseur de services de votre choix en qui vous avez confiance. Les usages, évidemment, ont évolué. Hein. Aujourd'hui, je pense que plus personne n'utilise simplement Dropbox pour avoir le même fichier sur ses différents ordinateurs. Aujourd'hui, on édite en ligne, on travaille en ligne, on travaille depuis son téléphone, son ordinateur, sa tablette. Et Nextcloud, tout comme les autres, a évolué pour accompagner ces nouveaux usages et offre aujourd'hui donc des fonctions avancées de collaboration, que ce soit de l'édition en ligne, que ce soit de la synchronisation non seulement de fichiers, mais également de ses contacts, de son calendrier. En somme, c'est un écosystème qui vous permet d'avoir l'intégralité de vos données, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, dans un seul espace.
D'accord. On va détailler évidemment les fonctionnalités. Sur cette partie contexte, puis j'aurai une question pour Nina Cercy sur l'historique entre OnCloud et NextCloud. François, sur cette partie introductive, est-ce que tu veux compléter ?
Pas grand-chose à rajouter. Moi, j'ai découvert OnCloud à l'époque, tournant 2010. Voilà, un pote, à l'époque, j'étais à Paris, hein, un pote du groupe d'utilisateurs logiciels libres qui s'appelait Paris Nux, qui vient me voir et me dit « Oh, faut qu'on teste ça, ça a l'air génial ». Et en fait, effectivement, ça s'est révélé assez rapidement fonctionnel, performant et tout à fait pertinent. Donc, on a commencé à en faire la promotion. À l'époque, à l'April, on a sorti un guide de logiciels libres à l'usage du monde associatif en 2012. On l'a cité dedans. Et donc, ça veut dire qu'avant, on l'avait testé, on avait vérifié qu'il était correctement traduit, qu'il était facile à l'emploi, etc. Et puis, voilà, nous, on a fait... pour l'utilisation des contacts partagés à l'April, on l'a déployé en 2014. Donc, ça commence à remonter.
D'accord. Alors, ça me fait penser que donc ce guide de libre association doit être mis à jour, parce qu'aujourd'hui, on parle Nextcloud. Ou est-ce que le guide a déjà été mis à jour ?
Je crois pas que le guide ait été mis à jour.
C'est un peu une question piège. Alors, ceci dit, donc toi tu parles de OnCloud. Effectivement, historiquement, l'un des premiers logiciels qui visait aux objectifs décrits par Nina Cercy, c'était OnCloud en 2010. Aujourd'hui, on parle de NextCloud. Alors, quelle est la relation entre les deux ? C'est NextCloud et le fork de OnCloud, c'est-à-dire une branche alternative différente. Est-ce que c'est un succès ? Voilà, est-ce que tu peux nous faire en résumé un petit point sur la situation, Nina ?
Oui, effectivement. Le projet initial a fêté ses 10 ans il y a un mois à peu près. Les premières lignes de code qui ont été développées de ce logiciel étaient effectivement sous le nom OnCloud par Frank Karliczek, qui est aujourd'hui donc le CEO de Nextcloud.
Le PDG
de Nextcloud. Donc à l'époque, le projet était un projet qui était uniquement, enfin qui n'était pas forcément à vocation d'entreprise. Donc Franck à l'époque avait commencé ça comme un projet communautaire et il a été rejoint assez rapidement par une personne qui voyait le potentiel commercial pour les entreprises du projet. Et ils se sont associés pour créer un logiciel qui s'appelait OnCloud. OnCloud avait exactement le même cœur de fonctionnalité que Nextcloud aujourd'hui. Et la différence qu'il y avait entre les deux, en fait, c'est que à destination des entreprises, OnCloud avait des fonctionnalités qui étaient des fonctionnalités payantes, accessibles uniquement par les entreprises, donc qui payaient une licence à OnCloud, avec un modèle qu'on appelle dans l'open source l'open core. Donc l'idée, c'est que les fonctionnalités basiques du logiciel sont disponibles en open source pour tout le monde et que les entreprises, elles, ont accès à des fonctionnalités qui sont payantes. C'est un modèle, c'est pas un modèle qu'on critique en soi, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du libre, qui développent sur ce modèle-là. Je pense à GitLab notamment qui fait ça, en partie en tout cas.
C'est un modèle qui est comme assez largement critiqué. Enfin, ça dépend par qui.
C'est
un modèle qui existe.
C'est un modèle qui existe et alors ça nous emmènerait assez loin. Hein, mais quand on parle effectivement du financement de l'open source, je comprends très bien qu'il y ait des entreprises qui, on va dire un peu par facilité, parce que c'est une façon de le monnayer plus rapidement, développent sur ce modèle-là. Effectivement, Franck, au bout d'un moment, ça ne lui convenait plus du tout, et à la grande majorité des ingénieurs de Nextcloud non plus, simplement parce que ça a pas mal de défauts, en fait, le modèle open core. Déjà, quand on veut développer du logiciel libre, avoir une partie de ses fonctionnalités qui sont pas libres et sur lesquelles des contributeurs contribuent, mais du coup contribuent pas vraiment selon la licence de base du logiciel, mais sur une autre licence, ça crée énormément de complexité. C'est pas rendre justice également à la communauté, tout simplement, hein, qui contribue très largement sur le projet et qui devrait avoir accès à l'ensemble de ses fonctionnalités. Et donc pour toutes ces raisons, Franck a fini par prendre la décision en 2016, si je ne m'abuse, de forquer le projet, donc effectivement de repartir de la même base de code, mais monter une entreprise, on va dire, sur une branche alternative qu'il a appelée Nextcloud.
D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un lien entre OnCloud et NextCloud ou il n'y a plus du tout de lien?
Alors, il y a un lien dans les recherches Google qu'on fait sur nous. Pendant assez longtemps, on avait des compare OnCloud and NextCloud.
Dans la comparaison entre OnCloud et NextCloud.
C'est d'accord. Ça. Finalement, le lien aujourd'hui, je dirais qu'il a plutôt disparu, ne serait-ce que parce que les deux entreprises, en fait, sont parties sur des modèles assez différents. OnCloud a décidé de se recentrer exclusivement sur la partie partage et synchronisation, et je crois que là, ils sont en train de tout réécrire en Go ou quelque chose comme ça.
Qui est un nouveau langage, enfin, un langage relativement récent de
exactement,
Google.
Ouais. Qui est assez à la mode, on va dire.
Oui, à la mode, ouais.
pour ne pas en dire du mal. Et NextCloud, en fait, on est parti sur un parti pris qui est de dire que le partage et la synchronisation, c'est bien, mais ça suffit plus, en fait, aujourd'hui, pour définir un produit. C'est plus une commodité, en fait. Et c'est attendu de l'intégralité des logiciels qui sortent. Donc nous, on est parti plus sur la dimension collaborative en essayant d'intégrer tous les outils qui font en sorte que n'importe quelle structure, que ce soit une association ou que ce soit une entreprise de centaines de milliers d'employés, puisse collaborer sur l'intégralité de ses projets tout en ayant la pleine maîtrise de ses données.
D'accord. Bon, on peut dire que c'est par rapport à la question est-ce que c'est un fork réussi ? C'est un fork réussi parce que finalement aujourd'hui c'est plutôt de NextCloud qu'on parle plutôt que de OnCloud, entre guillemets. Voilà. François, est-ce que tu veux réagir là-dessus sur la partie historique ou sur la partie OpenCore ? Je ne sais pas.
Oui, pour confirmer, c'est un fork qui a été extrêmement suivi. Je pense que l'affaire a été pliée assez rapidement en fait. Hein. Du point de vue de la communauté, ça n'a pas fait de doute. On voit encore un petit peu dans la partie technique, on voit les strates, on voit des strates.
Ah oui, par rapport à mes questions entre les liens entre les deux, il y a encore dans la partie technique des, on va dire, des bouts d'OnCloud qui restent, qu'on peut
essentiellement le nommage des choses, ouais. Quand on, ah oui, par exemple, la commande de gestion, elle s'appelle OCC.
Voilà. Et OnCloud commande. L'étape de la base de données doivent s'appeler OC underscore quelque chose, peut-être.
Exactement.
Probablement.
Voilà.
Ouais.
Alors, on va pas rentrer dans la technique parce que sinon, on n'intéressera pas forcément les gens qui nous écoutent. Donc, c'est un fork qui a réussi. OnCloud continue, comme l'a expliqué Nina Cercy, sur un autre modèle. Là, on va parler de NextCloud qui devient effectivement, rajoute des fonctionnalités de plus en plus. Et donc, alors tu as parlé tout à l'heure des entreprises. On va commencer plutôt déjà par les personnes individuelles qui nous écoutent. Hein. Alors, il y a aussi des entreprises qui nous écoutent. Quelles sont les fonctionnalités proposées donc par NextCloud? Comment les cas d'usage? Voilà, comment quelqu'un qui se dit tiens aujourd'hui j'écoute Nina et François me convainquent que Dropbox, Google, tout ça, bah il faut passer à autre chose. Il faut utiliser NextCloud. Voilà, quelles sont les fonctionnalités qu'offre l'outil par exemple déjà? François Poulain.
Ouais, la fonctionnalité de base, vraiment le cœur autour duquel tout ça s'est popularisé, c'est le fichier. Donc on peut stocker en ligne des fichiers, on peut y accéder depuis n'importe quel ordinateur si on a les bons mots de passe. On peut les partager à des tiers, y compris des gens qui n'auraient pas de compte sur le NextCloud. Donc il y a un mécanisme comme ça qui est fait pour partager des liens non devinables. Et puis autour de ça, c'est greffé pas mal de choses. Une application qui a été rapidement très populaire, c'est l'agenda en ligne. Donc on peut avoir son agenda en ligne sous sa maîtrise et pas passer par Google Agenda. Il y a eu le partage de contacts aussi très rapidement. Ça fait partie des briques de base de l'outil. Alors là, on commence un petit peu, quand on fait du partage de contacts, on commence à rentrer un petit peu dans la partie collaborative. Parce que ça peut être intéressant dans un collectif de partager un peu les adresses. Et puis récemment, en fait, ces dernières années, il y a eu un magasin d'applications en fait qui s'est créé, en même temps que NextCloud, et il y a énormément d'applications possibles. Donc aujourd'hui, on va pouvoir avoir directement un client mail dans NextCloud, on va avoir de l'édition.
Il y a un client courriel dans NextCloud.
Ouais.
D'accord, je ne savais pas.
Un webmail.
Un webmail, d'accord. Ouais. Ok.
On peut avoir l'édition des documents. Édition éventuellement en multi-main simultanée.
Alors j'aurais des questions tout à l'heure sur l'édition de documents, parce qu'on a eu des questions en préparation de l'émission. Et
je ne saurais pas citer toutes les fonctionnalités.
Oui, j'ai l'impression qu'en fait, ça va être ma question. Il y a une centaine d'applications qui sont utilisables dans un NextCloud.
Je crois qu'on est même à 200 aujourd'hui.
Nina Cercy, ouais. 200 D'accord. Donc on a dépassé largement le cadre simplement de partage de fichiers. Donc quasiment, en fait, presque tous les besoins que peuvent avoir des utilisateurs ou utilisatrices ou des entreprises sont couverts finalement quelque part par NextCloud. Potentiellement.
Oui,
potentiellement.
On va quand même rester réaliste. Heureusement, on ne fait pas encore l'intégralité de tout ce que font toutes les entreprises du monde. Mais de fait, on a énormément d'applications et d'applications communautaires. Moi, il y en a une que j'aime bien citer parce que je trouve que ça donne une bonne idée de la diversité. On a un DICOM Viewer. Qui est en fait une application pour faire de la lecture de documents médicaux. Donc je crois que c'est... Alors je n'y connais absolument rien personnellement, mais c'est ça reprend les informations en fait qu'on a quand on passe des radiographies, et donc ça permet de les visualiser. Voilà, ça a été développé par totalement externe à l'entreprise, par deux personnes qui en avaient besoin. Et en fait, pour moi, la force de Nextcloud, c'est que c'est une excellente brique de base. Elle donne toutes les fonctionnalités de base sur lesquelles on a envie de pouvoir greffer des lecteurs de fichiers. On a des gestions de projet, on a des visualisateurs de l'intégralité des données qu'on met dedans. On a une application qui est absolument géniale, moi je trouve, pour les particuliers, qui s'appelle Maps, et en fait qui va récupérer l'intégralité des données que vous avez utiliser l'intégralité des données que vous avez dans votre Nextcloud pour, par exemple, quand vous regardez une map monde, placer tous vos amis en fonction de la ville qui est indiquée dans le contact, et leur rattacher les photos dans lesquelles ils ont été cités, ce genre de choses. Et je dirais pas que c'est une application entreprise pour le coup, mais c'est vrai que c'est super agréable d'ouvrir Maps et de pouvoir un peu visualiser tout le monde sur la carte. Et effectivement, hein, comme le disait François, le problème de citer les fonctionnalités de Nextcloud, c'est que il y en a tellement et ça va tellement dépendre du cas d'usage. Moi, je sais que la façon dont je l'ai découvert, c'était en colocation. Ouais. Donc on était en colocation, on était 16, et on avait besoin de plusieurs choses. La première, c'était de suivre un peu les frais de la colocation, donc de mettre à disposition le fichier de suivi de frais de la colocation, mais aussi de partager nos photos de soirée, d'avoir un endroit où on avait les numéros de tout le monde, et à chaque fois qu'on voulait s'échanger un fichier pour se faire relire ou échanger un e-book ou ce genre de choses, on le mettait sur le Nextcloud, on partageait à la personne, et puis c'était fini, quoi. Ça marchait super bien, et moi c'est ça qui m'a donné envie de travailler chez eux, hein, c'est le fait que je les utilise au quotidien, que ça couvrait la quasi-totalité de mes besoins de base d'interaction avec des fichiers en termes de partage, de synchronisation. J'avais mes photos qui étaient synchronisées automatiquement, donc quand j'ai perdu mon téléphone, j'ai absolument rien perdu. Et je me disais, tout ça sans rien avoir à donner à Google, c'est quand même pas mal, quoi.
Alors justement, pour être peut-être un peu plus concret, et puis expliquer un petit peu comment ça marche entre la partie serveur et la partie cliente. Imaginons que ce soit une personne ou un collectif qui se dise je veux partager des contacts, comme tu le dis, des fichiers ou des photos de vacances. Personne n'est parti de loin, on veut partager des photos de vacances. Ou une sauvegarde automatique de ses contacts, effectivement, avec son téléphone. Donc il y a une partie serveur, il y a une partie cliente. Donc pour bien comprendre, excusez-moi pour le bruit. Côté Nextcloud, donc il y a une partie serveur. Donc soit il faut l'installer sur un serveur à soi, soit il faut trouver un prestataire ou un collectif. Alors on parlera peut-être tout à l'heure de la partie chaton pour installer Nextcloud. Et côté client, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un client, par exemple, tu es sur téléphone mobile, qui est aujourd'hui une pratique classique, est-ce qu'il y a un client Nextcloud qui permet de se connecter au serveur et de tout faire, ou est-ce qu'il y a plusieurs clients qu'il faut utiliser? Par exemple, partage de contacts, agenda, comment ça fonctionne concrètement?
Alors, il n'y a pas une réponse unique. Le client de base pour utiliser Nextcloud, c'est votre navigateur web. Donc, si vous avez Firefox sur votre ordinateur, vous ouvrez Firefox, vous tapez l'adresse ou vous cliquez sur le raccourci et vous avez accès direct aux fonctionnalités. Après, il y a des ponts, des interconnexions qui sont possibles, puisqu'on peut, faire un montage du système de les fichiers qui sont dans Nextcloud, on peut les avoir montés de façon transparente dans le navigateur de fichiers de l'ordinateur. Donc, par exemple, si vous êtes bien traité en matière d'informatique et que vous êtes chez Debian, que vous utilisez un bureau GNOME, par exemple.
C'est quoi Debian ?
Debian, c'est une distribution de logiciels libres et qui fournit un système d'exploitation complet sur un ordinateur. Et par exemple, dans Debian, le bureau par défaut, c'est le bureau qu'on appelle le GNOME. Et dans GNOME, vous avez vos préférences utilisateurs. Vous pouvez mettre simplement l'adresse de votre serveur Nextcloud et tout est connecté automatiquement. Vous avez l'agenda, vous avez les partages de contacts, vous avez l'accès au système de fichiers sans rien faire.
C'est transparent en fait.
C'est transparent, vous donnez l'adresse du serveur, vous mettez votre mot de passe et ça marche.
D'accord.
C'est un exemple de client donc qui n'est pas le client du navigateur web.
Qui n'est pas le navigateur web.
Et là, prosaïquement, on a aussi un client Android, un client iOS, qui sont des apps qu'on peut télécharger tout bêtement depuis un Play Store.
Justement, François répond, mais François, c'est aussi parce qu'il n'a peut-être pas de téléphone qui répond pas sur la partie application. Pas téléphone mobile, j'entends. Donc François nous explique effectivement sur un poste de travail classique, environnement libre ou autre environnement d'ailleurs, donc il a cité Debian GNU Linux. Et Nina, justement, donc sur la partie téléphone mobile qui est aujourd'hui, tout à l'heure, on a fait des photos qu'on met en ligne, pour le mettre les photos, j'ai utilisé mon téléphone, j'ai utilisé le client Nextcloud et je l'ai mis directement en ligne sur le serveur de l'April pour ensuite que ce soit mis en ligne publiquement. Donc quelles sont les applications, comment ça fonctionne sur téléphone mobile?
Alors, sur téléphone mobile, c'est extrêmement simple. Hein, où vous téléchargez votre application, que ce soit sur le store des téléphones Apple ou le Play Store de Google, ou n'importe qui. Je crois qu'aujourd'hui, l'intégralité des stores qui proposent des applications libres proposent aussi l'application Nextcloud.
F-Droid, qui est le principal store d'applications libres, propose
l'application Nextcloud. Vous le téléchargez, vous mettez effectivement l'adresse de votre serveur. Alors, ça a l'air exotique dit comme ça, mais c'est vraiment, ça va être cloud.votrenomdedomaine.fr ou ce genre de complexité, donc pas trop complexe normalement. Vous mettez votre login, votre mot de passe, et vous retrouvez en fait l'intégralité de vos fichiers affichés sur vos téléphones sans que les fichiers aient besoin d'être stockés. Ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt appréciable. Nous, sur notre cloud, on a, je sais pas, on doit être à 200, 300 gigas de données. J'apprécie de pas avoir les synchroniser sur mon téléphone. Et en fait, ça
ouvre. Quand tu parles de ton cloud, c'est ton cloud de ta coloc ou
Non, alors là, c'est le mien personnel.
Ah, le tien, personnel,
voilà.
D'accord.
Voilà,
200, 300 gigas, d'accord.
Oui, c'est ça. Bon, on a beaucoup de choses. Mais beaucoup de photos, surtout. Et donc, en fait, tous les fichiers s'affichent. Si on clique, ça les télécharge, on les ouvre. Et l'intégration aujourd'hui, elle est assez poussée. Elle est faite quasiment exclusivement sur la partie fichier pour l'application officielle, au sens où typiquement, vous n'allez pas avoir d'intégration avec les apps niveau gestion de projet, mais c'est un projet qu'on a en tout cas. Et pour ce qui est d'interagir avec les fichiers, typiquement, je sais que si vous avez installé, donc on y viendra plus tard, hein, mais des services d'édition collaborative en ligne du type OnlyOffice ou Collabora, moi je peux ouvrir dans mon application mobile un fichier, travailler dessus, il est sauvegardé en temps réel, et j'ai pas besoin d'avoir OnlyOffice installé sur mon téléphone.
D'accord. Alors soit sur la partie collaborative, et notamment on y reviendra tout à l'heure. Là, juste une petite question, parce que je l'ai eu en préparant l'émission sur la partie contact, la synchronisation des contacts et aussi de l'agenda. En fait, il faut, en plus du client Nextcloud, l'application Nextcloud officielle, il faut installer une application de type synchronisation d'agenda, donc DAV5X, et l'application de contact qui permet de synchroniser les contacts. Donc, ça fait deux applications de plus à installer. Est-ce qu'il est prévu dans le client officiel Nextcloud, d'intégrer ces fonctionnalités-là ou pour l'instant, ce n'est pas prévu?
Alors, on y travaille, mais je pense que toutes les personnes ici qui travaillent sur du logiciel libre comprendront très bien pourquoi on a des difficultés à le faire. À l'origine, ces briques-là, elles ont été développées par des contributeurs. Et nous, on n'a clairement pas du tout envie de s'aliéner notre base de contributeurs et de contributrices en disant « Oui, bah c'est bien, vous avez développé ça, mais regardez, nous, on a développé mieux. Allez hop, on évacue votre appli. » Donc, on est tout à fait conscient du problème hein, et du fait que quand on prône la simplicité, devoir installer deux applications supplémentaires, et bah, mine de rien, ça met une petite barrière à l'entrée. Donc là, on travaille avec eux justement pour essayer de comprendre comment, tout en respectant leur contribution et le fait qu'ils aient développé leur appli de leur côté, réintégrer ce qu'ils ont fait au cœur de Nextcloud afin de simplifier encore l'utilisation par j'allais dire n'importe qui. Enfin, c'est vraiment, je déteste l'expression Madame Michu, mais voilà, la personne lambda qui n'y connaît absolument rien et qui sinon utiliserait Google Drive, quoi.
Sachant que bon, c'est vrai que ça fait trois applications à installer, mais c'est pas la mort. Et en plus, ces applications sont disponibles par défaut sur F-Droid. Donc, mais c'est vrai que dans une évolution de simplicité pour tout le monde, avoir un seul client, ça peut être une évolution. Alors, je surveille en même temps le salon web de la radio. Il y a Marie-Odile qui fait une remarque. 300 gigas de photos. Je souhaite à Nina d'avoir un jour une longue retraite et de pouvoir les regarder toutes. je crois que de côté familial chez moi, je crois que c'est 250 gigas. Donc, je peux comprendre la problématique de Nina.
Voilà, c'est juste des photos d'excellente qualité.
Voilà, exactement. Exactement, ça prend de la place. François, tu veux compléter sur cette partie-là, même si effectivement, toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas de téléphone mobile sur cette partie application, on va dire, de base. Hein. Après, on va parler de l'aspect collaboratif.
Oui, une application qu'on a à peine, enfin, on l'a un petit peu, on a fait allusion, mais qui est intéressante aussi pour l'usage familial, je trouve, c'est la galerie photo. Vous mettez dans les fichiers, vous avez des photos, ça vous génère une galerie photo. Et vous pouvez les partager, les visualiser. Ça paraît tout simple, tout bête, mais en fait, c'est pas si simple de faire de l'auto-hébergement de photos aujourd'hui sur le web. Et donc, Nextcloud facilite la tâche. Oui.
D'accord. Alors, sur le salon web, on a aussi une question. Donc là, on a parlé de la partie cliente, mais il y a évidemment la question partie serveur. C'est comment on fait concrètement pour c'est tout bien d'avoir Nextcloud. Et donc, la question de Pitrouille2, c'est existe-t-il des prestataires de confiance proposant un hébergement Nextcloud pour les personnes qui n'ont pas les moyens de l'installer sur un serveur à soi?
Tout à
Nina
fait.
Cercy. Alors, tout à fait.
Non, oui, bien sûr. Il y a effectivement. Alors, nous, on distingue deux types de personnes qui proposent une Nextcloud. On a aujourd'hui un nombre, je ne sais pas, ça doit être 200, 300 entreprises qui proposent du Nextcloud. Et on en est ravis. Voilà, des espaces pour quelques gigas de données, pour quelques euros par an, vous allez avoir quelques gigas de données sur votre Nextcloud. C'est pas toujours des entreprises qui ont un contrat de support avec nous, donc c'est pas des entreprises qu'on peut vraiment recommander, parce que si ça se trouve, elles font extrêmement bien leur travail, ou si ça se trouve, elles n'y connaissent absolument rien, et ça, on n'a aucun moyen de le vérifier. Donc, on les liste, on leur propose, on a une page GitHub qui leur est dédiée, où chacun peut se lister et dire ce qu'ils proposent, de quelle façon. Mais nous, on a également des prestataires avec qui on travaille et avec qui et qui ont un contrat de support avec nous justement pour les cas un peu difficiles ou pour les déploiements qui sont complexes et qui sont disponibles sur une page qu'on mettra j'imagine en
référence
après, voilà, ouais, en référence
sur le site de l'April
voilà et sur la page nextcloud.com/providers
d'accord
exactement
et il y a des fournisseurs en France.
Il y a des fournisseurs en France. Alors là encore, on est comment dire ça? C'est un peu la limite entre officiel et non officiel. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande ça, j'ai tendance à dire qu'on a l'association Zaclis qui fait un travail extraordinaire.
Alors Zaclis, c'est Z-A-C-L-Y-S, je
Exactement.
Crois.
Exactement.
Alors ça fait partie du collectif Chaton dont on
voilà,
parlera
c'est
tout
ça.
À l'heure.
Mais
peut-être
pas,
que tu peux en parler.
Non, je voulais pas divulguer le...
Divulguer, on en parlera tout à l'heure, effectivement.
Chaton. Et sinon, on a effectivement, pareil, Framasoft qui fait un super boulot avec son Framadrive. Mais j'ai pas non plus envie de les citer et qu'après, il y ait une vague d'inscription parce que ça reste des associations qui n'ont pas forcément la charge, enfin qui ne peuvent pas forcément supporter une charge supplémentaire
oui,
et
que...
qui n'ont pas vocation à être des gens qui fournissent du Nextcloud gratuitement pour le grand public. Quoi.
Mais surtout que s'ils sont tous comme toi et ma famille avec 300 gigas de photos, en termes d'espace 10, ça va prendre de la place.
Pierre-Yves va me tuer, ça va être horrible.
Donc Pierre-Yves Gosset de Framasoft en l'occurrence. François, je vais te poser la question sur les fournisseurs type, parce qu'en venant dans l'émission, tu m'as parlé d'OVH et compagnie, mais bon, il y a le Chapril aussi, on en parlera tout à l'heure, qui offre effectivement un exclude avec des limitations. Donc quelqu'un qui, par exemple, a un hébergement aujourd'hui, alors chez OVH, chez Gandhi ou que sais-je, est-ce qu'il y a une possibilité d'installer simplement un exclude avec des. Alors, tu m'as dit en arrivant avec des compétences, je ne sais plus quelle expression tu as employée, des compétences basiques en informatique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Comment quelqu'un qui a un hébergement, voilà, chez un hébergeur type OVH ou autre, peut installer un exclude de base avec les fonctionnalités dont on a parlé tout à l'heure?
Pour répondre rapidement à la question, disons quelqu'un qui est bidouilleur et qui sait comment installer une application PHP SQL, il n'aura aucune difficulté à installer un exclude parce que c'est exactement une application PHP SQL.
Comme il y a quelques années, on installe toujours des SPIP sur des hébergeurs,
oui.
SPIP qui est un site web. Hein.
Quelqu'un qui sait installer un SPIP, qui sait installer un WordPress, il saura installer un exclude, il n'y a pas de difficulté majeure.
Par défaut, c'est quoi? C'est un pack d'applications de base qui sont installées et ensuite, si on veut en ajouter d'autres, il suffit de les sélectionner dans une liste, dans un sort de magasin, c'est ça?
Oui.
C'est du clicodrome, quoi, en gros.
À l'issue de l'installation, il est relativement vide. Alors, aujourd'hui, sur les versions récentes, il y a des packs d'applications qui vous sont proposés. Donc, il y a quelques packs qui existent. Par exemple, un pack bureautique, un pack travail collaboratif, etc. Et après, il y a un magasin d'applications avec les applications triées par catégorie.
D'accord, donc ça c'est une autre solution.
Oui.
Tu voulais compléter?
Ouais, je veux bien compléter.
Vas-y, Nina.
Pour deux raisons. La première, c'est que moi j'appelle pas ça des compétences basiques en informatique.
C'est pour ça que j'ai mis des guillemets,
oui, voilà,
même si
c'est...
je les.
Non, de bidouille.
Oui, non, enfin. Je comprends. Non, je comprends très bien. Et effectivement, je pense que pour toute personne qui fait l'administration de système, c'est très facile d'installer du Nextcloud. Je voudrais juste, parce que j'ai quand même vu le cas plusieurs fois, il y a des gens qui mettent des données importantes sur leur Nextcloud en se disant que c'est très facile. Que c'est très facile à déployer et qu'ils n'auront pas de problème d'administration, ce qui est globalement vrai, mais ça nécessite quand même des compétences de base en termes de faire des sauvegardes, de toute une notion de maintenance qu'il ne faut absolument pas oublier quand on utilise un outil qui centralise autant de données. Et la deuxième nuance que je voulais apporter, qui n'est pas une nuance d'ailleurs, qui est plus une information, c'est le fait que la dernière version de Nextcloud qu'on a sortie s'appelle Nextcloud Hub. Et le concept, c'est justement, on a sélectionné les applications qui, pour nous, devraient venir avec chaque Nextcloud. Donc typiquement, maintenant, si vous installez Nextcloud, par défaut, vous avez de l'édition collaborative en ligne, vous avez du chat, donc avec Nextcloud Talk, avec des salons de discussion et ce genre de fonctionnalités. En plus des fonctionnalités de base, du calendrier, du contact, etc.
D'accord. Alors, on va faire une pause musicale. À la retour de la pause musicale, on va parler aussi quand même des chatons, qui est une solution, et puis on abordera l'aspect collaboratif, l'aspect entreprise. Mais là, on va faire une pause musicale. On va écouter une artiste qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Angry Lucy, et qui nous fait un morceau intitulé Wandering. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune.
93.1.
Wandering par Angry Lucy, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous parlons de Nextcloud avec nos invités Nina Cercy, représentante France de Nextcloud, et François Poulain de la société Clis 21 et du Chapril dont on va parler tout à l'heure. Alors juste avant la pause musicale, on parlait des applications, on parlait de la recherche de prestataires pour quelqu'un qui veut installer donc un qui voudraient installer un serveur Nextcloud, donc pour héberger, partager des fichiers, des contacts, des photos, qui a un grand besoin. D'ailleurs, j'avoue que la première fois que j'ai installé Nextcloud, c'est pour partager des photos avec ma femme qui partait en voyage. Et on a évoqué tout à l'heure un terme chaton avec un S. Qui veut présenter ce qu'est les chatons et quelles solutions elles peuvent permettre d'offrir ces structures par rapport donc à un hébergement Nextcloud? Nina Cercy.
Allez. Alors en fait c'est l'interro, donc chaton ça veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires.
C'est exactement, bon. chaton.org.
Exactement, c'est une initiative qui a été lancée par Framasoft, donc il y a une association d'éducation populaire alors qui se base sur du logiciel libre, mais qui parle pas que de ça, hein, dont l'idée c'est vraiment d'avoir...
La culture libre en général.
Oui c'est ça, la culture libre en général, exactement. Et Framasoft, en fait, ils se sont retrouvés il y a quelques années face à un bon problème, on va dire. C'est que eux avaient mis à disposition des services libres, pas forcément à leurs adhérents, hein, mais à tout un chacun. Donc ça va du calendrier libre, contact libre, ou alors des alternatives à Doodle, qui est un logiciel qui permet de choisir le meilleur moment pour organiser une soirée, par exemple. Et ils ont un peu été victimes de leur succès. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui avaient très très envie de ne plus mettre ce genre de données chez Google et consorts, et qui sont tous allés sur Framasoft. Et donc Framasoft, qui est une petite association, hein, ils sont pas, c'est pas une association de 1500 personnes, quoi. Ils se sont retrouvés à devoir gérer un nombre de comptes incalculables avec du support très très lourd, etc. Et ils se sont dit, mais ça n'a aucun sens. Nous, on faisait ça pour lutter contre la centralisation des données chez quelques hébergeurs, et là, on se retrouve finalement à centraliser les données de tous les gens qui veulent pas aller chez Google. Donc, et en plus de ça, ça leur faisait une charge de travail qui était beaucoup trop importante. Et dans ces conditions, ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'il y ait plus d'associations ou de structures en général qui proposent des services libres comme nous on le fait et qui pourraient permettre à plus de gens de faire héberger, on va dire, ces données chez des gens en qui ils ont confiance. Et donc ils ont lancé cette idée des chatons, qui sont donc des hébergeurs, qui peuvent être des associations, qui peuvent être, je crois qu'il y a des partis politiques qui sont devenus chatons. Et l'idée, en fait, c'est un peu la même idée que les AMAP. Donc, une AMAP, vous avez le petit paysan producteur ou le moyen paysan producteur qui va finalement fournir dans un rayon de, je sais pas, à 50 km autour de chez lui, grâce à une asso qui va le mettre en contact, pardon, directement avec des personnes qui veulent acheter leurs légumes directement auprès du producteur. Et bah, les chatons, c'est un peu les AMAP du libre. C'est local, c'est vous qui choisissez chez qui sont stockées vos données, et elles fournissent donc un service qui est basé sur du logiciel libre, en s'engageant à ne pas exploiter vos données à des fins commerciales.
D'accord. Alors, François Poulain, tu fais partie de l'équipe bénévole qui s'occupe du Chapril, donc chapril.org, qui est le chaton de l'April, enfin la contribution de l'April au chaton, et donc notamment il y a depuis récemment un service Nextcloud qui a été ouvert qui s'appelle valise.chapril.org, parce que la valise on y met tout, on y met la brosse à dents, les photos, etc., ses livres, et donc ce site, donc chapril.org, offre un service d'hébergement de type Nextcloud ouvert à toute personne.
Oui, le service d'hébergement là, il vient d'ouvrir en fait. Donc là, je pense que la publicité, elle n'est pas encore fortement démarrée.
C'est pour ça que j'en fais la pub sur la radio.
Donc on va pouvoir là aujourd'hui, on peut librement s'inscrire sur la plateforme, ouvrir un compte. Il y a un quota à 1 giga qui est relativement modeste.
Tes photos, ça ira pas.
Qui est relativement modeste pour on pourra pas mettre des vidéos et pas trop de photos, mais qui est déjà une base de travail pour démarrer.
D'accord. Sachant qu'il y a dans le collectif Chaton, il y a plein d'autres structures qui offrent ça. Tout à l'heure, Nina parlait de la mère Zaklis, zaklis.com, donc, et on les retrouve sur chaton.org, chaton avec un S, qui donc propose des services d'hébergement de Nextcloud, qui permettent à quelqu'un, une personne ou même un collectif. On va parler tout à l'heure après de l'importance pour les collectifs de Nextcloud. Mais je relaie une question qui est sur le salon web par rapport à ça. Donc, une personne ou un collectif a installé ou choisi un prestataire pour son Nextcloud et demain je souhaite changer de prestataire. Comment ça se passe au niveau des données? Est-ce que c'est facile pour récupérer ces données et les transférer? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est infaisable? J'imagine pas que ce soit infaisable. Nina,
merci. Je vais faire une super réponse, à savoir, ça dépend des données. Il y a des données qui sont extrêmement simple à récupérer et à transférer. Donc typiquement, votre calendrier, vous faites un simple export, vous remettez le fichier que vous avez exporté sur votre calendrier dans votre autre instance Nextcloud, c'est fait. Vos fichiers, vous pouvez tout télécharger d'un coup et tout remettre. En revanche, par exemple, on a un système, donc on a une application qui est un tableau Kanban, donc un tableau de gestion de projet. Alors là, bon courage quoi pour exporter ces données. Je crois pas qu'elles soient dans un format qui soit facilement exportable. Vous allez perdre a priori tout ce qui est version, modification de vos fichiers édités en ligne. Donc je dirais que pour tout ce qui est export de fichiers, calendrier, c'est assez simple. Le plus simple évidemment, c'est si votre prestataire déploie Nextcloud en tant que VM, donc
machine virtuelle.
Voilà, machine virtuelle, exactement. Auquel cas, vous avez juste à, on va dire, prendre le paquet et le coller chez quelqu'un d'autre. Après, si c'est pas la façon dont votre prestataire déploie Nextcloud, et ben il y a des données qui vont être très faciles à récupérer et d'autres où ça va être très compliqué.
D'accord. François, tu veux compléter ?
Ouais, c'est très important d'avoir un prestataire qui est ouvert au dialogue, parce que malheureusement, il y a énormément de prestataires, et en général, ça se ressent au niveau du prix, où c'est très difficile d'avoir un support efficace. Donc vous pouvez avoir des hébergeurs comme OVH, le plus connu, qui va vous faire un hébergement à 40 euros l'année, mais ça sera éventuellement difficile d'avoir un support efficace derrière pour récupérer vos données et pour être conseillé sur comment les réinstaller ailleurs.
D'accord. Alors, on a beaucoup parlé des besoins de personnes physiques, mais l'exclude ne s'adresse pas uniquement aux personnes physiques, ça s'adresse aussi aux collectifs, aux entreprises, aux administrations. Donc là, est-ce qu'il y a des... je pense que là, il y a évidemment des prestataires plus plus professionnels, mais plus dédiés en fait à l'aspect entreprise. Mais au niveau fonctionnalité, est-ce qu'il y a des outils spécialement orientés entreprise ou en tout cas collaboratifs dont vous avez commencé tout à l'heure à parler, donc notamment vous parlez de l'édition de documents. Est-ce qu'aujourd'hui dans Nextcloud on peut éditer des documents directement dans Nextcloud et comment ça marche en fait?
Alors comment ça marche techniquement ou comment l'expérience que
l'expérience
c'est
l'expérience d'usage.
Bon, parce que l'expérience elle est assez simple. Hein. Vous avez en fait quand vous arrivez sur votre Nextcloud, vous avez une liste des fichiers que vous avez et si votre fichier c'est par exemple un document texte, donc que ce soit du .doc, du .docx, du .odt, vous cliquez dessus et ça l'ouvre. Et donc ça l'ouvre et vous pouvez éditer en ligne. Donc,
et ça c'est sur n'importe quelle instance par défaut de Nextcloud ou c'est un des modules
particuliers?
Maintenant, d'accord.
Maintenant, par défaut, sur l'intégralité des Nextcloud qui sont installés, vous avez de l'édition collaborative, gratuitement. La limitation, c'est que vous allez avoir un nombre de personnes qui peuvent travailler sur le même document en simultané qui est limité, je crois, à 20 personnes ou quelque chose comme ça. Et ensuite, si vous êtes dans un contexte entreprise, c'est pas nous qui développons ça, hein, on travaille avec des partenaires là-dessus. Et ces partenaires, vous allez leur acheter, alors ça dépendra de leur modèle, hein, mais vous allez leur acheter soit un nombre de connexions simultanées pour leur logiciel, ou alors du support dans le cas de Collabora. Et vous aurez cette même expérience, juste avec plus de personnes qui peuvent éditer au même moment.
D'accord. François, Poulain ?
Juste pour préciser, oui, c'est très récent, parce que c'est la version 18 du logiciel qui est sortie en janvier, mi-janvier.
Donc, c'est la fameuse version Nextcloud Hub,
ouais,
c'est ça,
exactement.
HUB. D'accord.
Tout à fait.
Donc Nextcloud, c'est une société allemande, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
Et donc, dans le modèle économique, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup parlé du modèle économique, le logiciel, il est libre. Et donc, en fait, finalement, c'est au niveau des services que Nextcloud se finance par rapport au logiciel, par rapport à peut-être à la formation, je ne sais pas.
Exactement. Non, c'est au niveau des services. En fait, nous, ce qu'on vend, c'est donc effectivement, comme tu le disais, pas une licence d'utilisation. On a un modèle qui est autour de l'accès à l'expertise. Donc, en fait, ce qu'on appelle la souscription Nextcloud, ça va avoir plusieurs avantages pour les entreprises. En général, ce qu'elles voient le plus, c'est le support, évidemment, parce que ça vous donne un accès au support. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Hein. L'accès à tout ce qui est autour de Nextcloud, que ce soit le développement de fonctionnalités spécifiques, que ce soit l'accès aux add-ons de nos partenaires, donc typiquement
OnlyOffice. Les add-ons, c'est
j'arrivais pas trouver une traduction.
François et nous, c'est...
Les greffons.
C'est génial.
Je sais pas si c'est plus compréhensible, mais bon.
Non, je sais pas, mais typiquement, tous les produits que vous allez acheter en plus de Nextcloud, en fait, seront uniquement accessibles pour les entreprises comme partie de la souscription Nextcloud. On a également, en termes de sécurité, Le fait qu'on réintègre uniquement les correctifs de sécurité sur les anciennes versions, donc typiquement si vous avez Nextcloud 13, qui aujourd'hui est plus maintenu en version communautaire, continue à être maintenu pour les entreprises.
D'accord.
Donc voilà, en fait, tout ce qui touche à l'expertise, ça va faire partie de la souscription, et c'est comme ça qu'on se finance.
D'accord, très bien. Alors, question, on a appris que le ministère de l'Intérieur et sans doute d'autres se lancent dans la migration, enfin l'installation massive de Nextcloud. Donc c'est accompagné par la société Nextcloud, et est-ce qu'on peut savoir si ça se passe bien, ou est-ce que c'est trop tôt?
Alors tout à fait, c'est accompagné par la société Nextcloud directement. On travaille en direct avec eux. Est-ce que ça se passe bien? Bah, c'est à eux qu'il faudrait le demander. Hein,
alors on les invitera alors.
C'est ça. Moi j'ai pas trop le droit d'en parler, pas tellement du côté de Nextcloud, mais plus de leur côté à eux, parce qu'ils sont, enfin bon, ça reste le ministère de l'Intérieur, hein, tout simplement. Mais leur objectif à terme, c'est de déployer Nextcloud, je crois, pour leurs 300 000 agents. C'est,
oui,
ça, le terme.
Agent,
c'est ça, pour leurs 300 000 agents. Et donc, alors forcément, hein, quand on déploie un service pour 300 000 agents, ça se fait pas en deux jours. Donc là, je sais qu'on continue à travailler avec eux,
d'accord,
en tout cas, ça c'est sûr.
Bon.
Mais je peux pas tellement en dire plus.
Bon, bah, quand ils auront fini la migration, ils viendront nous faire un retour d'expérience, comme l'a fait la gendarmerie. Et François, tout à l'heure, tu expliquais donc, que tu travailles pour CLIS21, donc une petite société libriste dans le Nord. Et je crois que vous travaillez pas mal avec des collectifs, associations diverses et variées. Est-ce que tu as des retours d'expérience, des cas d'usage particuliers par rapport à Nextcloud?
Oui, nous on travaille beaucoup soit avec des mairies, soit avec des associations, et plutôt de petite taille, quoi. Quand il y a 15 usagers, c'est déjà beaucoup. Alors nous, on parlait de modèle économique tout à l'heure. Ce qu'on vend essentiellement, c'est le support, en fait. On vend un petit peu l'hébergement et un petit peu la maintenance, parce que c'est, en fait, on a un modèle économique de service, mais c'est surtout le support qui fait notre valeur ajoutée, parce que voilà, on est face à des gens qui mettent un agenda partagé, et puis ça, pour une raison ou pour une autre, ils n'arrivent pas à l'installer dans leur Thunderbird. Donc on vient les aider, comprendre leurs problèmes, leur expliquer. On les forme un petit peu aussi, parce que ça, il faut qu'ils acquièrent un peu les mécanismes de fonctionnement. Il y a des gens qui nous sollicitent, par exemple, parce qu'il faut installer le synchroniseur sur Android et qu'ils ne savent pas, donc on les guide, etc. C'est typiquement le genre de choses qu'on fait. Et nous, on fonctionne un petit peu, on parlait un petit peu tout à l'heure des techniques d'hébergement. Nous, on fonctionne sur deux modes. On va avoir une infrastructure d'hébergement mutualisée. Donc sur nos serveurs chez nous, qui sont chez un petit hébergeur à Valenciennes, on va avoir différents Nextcloud qui sont hébergés aux côtés d'autres applications pour différents utilisateurs, mais qui sont sur nos ordinateurs à nous. C'est ça qu'on appelle de l'hébergement mutualisé. Et puis on va aussi avoir des gens qui veulent avoir un ordinateur avec des services chez eux. Donc on a plusieurs usagers comme ça. Voilà, une fois il y a eu une rencontre, ça s'est fait en 2019, d'une sociologue qui faisait beaucoup d'enquêtes de terrain, qui collectait beaucoup de données, qui mettait ça sur Dropbox et Google, de façon un peu sans savoir, quoi. Et un jour elle a fait une formation RGPD, parce que tout le monde a parlé des RGPD, donc elle a eu l'occasion de faire ça.
Rappelle-nous ce que c'est que le RGPD.
Donc, le règlement sur la protection des données.
Général sur la protection des données. Règlement européen entré en vigueur il y a 2 ans de mémoire.
Voilà. Qui a fait beaucoup, beaucoup parler de la question de la protection des données personnelles. Il n'a pas vraiment changé le cadre réglementaire. En France, il n'a quasiment pas changé, parce que le cadre réglementaire français était déjà très protecteur. Par contre, ça, il a fait qu'on en a beaucoup parlé. Et donc, cette personne-là s'est rendue compte, ah ouais, mais en fait, j'expose énormément de choses dans les mains de prestataires dont je ne peux rien dire, quoi. En plus, bon, c'est des comptes gratuits, donc il n'y a aucune garantie derrière, sauf que la seule garantie que vous avez, c'est que Google vous espionne. Et donc, elle s'est posée la question, voilà comment on peut faire. Et donc, elle est venue nous voir et on s'est mis d'accord sur un plan de migration. Donc, elle a passé ses postes sous Debian, parce que c'était une volonté de sa part. On a installé un serveur domestique chez elle, et elle a son serveur de fichiers en Nextcloud, qui est à 2 mètres de son bureau où elle travaille. Et elle a ses données, les données de ses enquêtes, ses données de travail. Elle utilise Nextcloud pour collaborer avec des partenaires, donc quand faut travailler en commun sur des dossiers, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas Nextcloud 18, donc on a mis un serveur Collabora, voilà, pour qu'elle édite ses documents.
D'accord.
Et c'est le genre de choses que nous, c'est notre valeur ajoutée, c'est de faire ça, c'est de rapprocher les données des gens.
Et de rapprocher le service des gens, parce que vous travaillez beaucoup en local.
Oui, et essentiellement, la grosse partie de notre travail, nous, c'est en fait de faire de l'assistance pour que les gens aient une informatique qui fonctionne clé en main, en libre.
D'accord. Alors, le temps passe vite. Là, vous venez de citer Nextcloud, la dernière version, donc c'est la 18, c'est ça ? Est-ce qu'on peut avoir des infos sur les futures versions ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver, est-ce qu'il y a quelques infos à partager, peut-être Nina Cercy?
Ah oui, je vais révolutionner ça. La prochaine, c'est la 19. Voilà. Vous ne m'avez pas. Voilà, je n'ai rien dit, je n'irai. Non. Très clairement, nous, notre objectif pour ce qui est de l'avenir de Nextcloud, c'est d'intégrer de manière toujours plus poussée toutes les briques ensemble. Donc typiquement, aujourd'hui, on a des intégrations des serveurs de fichiers dans le chat, donc la discussion instantanée, et on voudrait que ce soit beaucoup plus fluide pour les utilisateurs et que finalement on puisse devenir la brique de base d'un écosystème libre de toutes les applications dont les gens ont besoin. On voit qu'on réussit pas mal parce qu'on a beaucoup de gens qui développent des applications effectivement sur notre plateforme et donc l'avenir pour nous, c'est de réussir à susciter encore plus, en fait, on va dire, de vocation, de contribution auprès de nos contributeurs et de nos contributrices. On a lancé un programme de développeurs et développeuses, développer programme en anglais, mais en francisation, ça s'adresse tout à fait aussi aux développeuses, évidemment. Et donc ce programme, ça vise justement à mentorer les gens qui auraient envie de développer une application pour Nextcloud, et on aimerait bien à terme que oui, bien sûr, nous on aura, je pense, toujours la plus grande partie du code en termes de pourcentage de code qui sera développé par les ingénieurs de Nextcloud, mais on voudrait que l'écosystème soit vraiment complété pour répondre aux besoins de toute personne qui a besoin de développer un service ou une application sur le serveur.
D'accord. François, avant ma dernière question, je crois que tu voulais quand même citer un autre au moins logiciel libre sur le même segment de fonctionnalité de Nextcloud, c'est ça ?
Oui, c'était si on avait l'occasion.
Mais 30 secondes.
Voilà. Bon, il y a des Français de Grenoble qui développent un logiciel qui s'appelle Tracim, qui peut être intéressant à tester, qui est beaucoup moins flexible que Nextcloud, mais c'est une fonctionnalité, quoi. Il arrive, il est beaucoup plus préconfiguré, prêt à l'emploi. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui cherchent à avoir une alternative.
D'accord. Alors, ma dernière question, 2 minutes chacun. En résumé, quels seraient les éléments clé que vous voudriez faire passer sur Nextcloud? On va commencer par François et puis on laissera la parole à Nina.
C'est un super logiciel qui est déjà très, très pointu, mais qui, à mon avis, va encore gagner en qualité dans les années à venir. Et faites attention, ouais, en termes de qualité d'hébergement, faites attention là où vous mettez les pieds. Comme Nina l'a rappelé tout à l'heure, il y a quand même des détails techniques à voir derrière. Par exemple, le fait d'avoir de la sécurité, des sauvegardes, c'est des éléments importants. Et des fois, il y a même des hébergeurs qui disent faire des sauvegardes et qui les font pas si bien que ça. Donc, ça vaut le coup de regarder un peu.
C'est-à-dire qu'ils font des sauvegardes, mais jamais de tests de restauration, peut-être.
Ça arrive. Et pas que des amateurs.
Hein. Et pas que des amateurs, nous sommes d'accord.
Mais
souvent, les amateurs souvent font le meilleur travail. Hein. Nina, en 2 minutes.
En 2 minutes, moi tout simplement, ce qui m'a fait travailler chez Nextcloud, d'évangéliser pour Nextcloud, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de sacrifier sa vie privée pour avoir un service de qualité. Et qu'aujourd'hui, pour moi, ce logiciel, c'est quand même la preuve qu'on peut faire aussi bien, sinon mieux, que les grands acteurs qu'on connaît tous aujourd'hui, les GAFAM, donc hein, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.
Et puis les autres, tous les autres aussi.
Et tous les autres qui sont très très contents de ne pas faire payer leurs services puisque les gens payent en données. Et que ça ne devrait pas être le seul modèle. Et je suis vraiment ravie de contribuer à un contre-modèle qui prouve qu'on peut faire, on peut faire bien les choses sans avoir besoin d'abuser de la naïveté, on va dire, et de l'inexpérience technique des utilisateurs et utilisatrices.
En tout cas, les personnes qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur nextcloud.com. Pour des hébergeurs, notamment les chatons, on en a beaucoup parlé, donc c'est chaton avec un s.org, dont le Chapril, hein, qui propose un hébergement. Mais
Chapril.org.
Chapril.org, exactement. En tout cas, je remercie Nina Cercy, donc représentante de France pour Nextcloud, et François Poulain, donc de CLIS21 et de l'April. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Nous allons faire une pause musicale. Alors nous allons écouter I Be Right Behind You, Joséphine, excusez-moi, par Joss Woodward, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune
93.1. behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Josephine, I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend, you ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. Guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, thing I'd feel is less alone, less alone. Josephine, even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Nous venons d'écouter I'll Be Right Behind You, Josephine, par Josh Woodward, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors nous allons changer de sujet. Normalement, notre chroniqueur Luc devait être présent au studio, mais il n'est toujours pas arrivé. Donc, à moins que Étienne ait des nouvelles.
Je sens Fred, là, je l'ai au téléphone, là, il vient de nous appeler, je te le connecte.
Bah, connecte-nous, sinon on va devoir improviser. Bah, allez, on passe au sujet suivant. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre donc avec la chronique La Pituite de Luc, qui la dernière fois était coincé aux toilettes et n'osait plus en sortir. Alors Luc nous avait assuré être au studio aujourd'hui, mais donc il n'est pas là, il est au téléphone, et il n'avait même pas prévenu qu'il ne serait pas là. Donc j'espère que nous aurons des explications. Donc bonjour Luc, est-ce que tu es avec nous au téléphone ?
Oui, oui, Fred, je suis là. Alors, ouais, je suis désolé, j'avais promis d'être vraiment là ce coup-ci, mais c'est encore raté. Hein. Je m'excuse de pas être venu. Je m'excuse de pas t'avoir prévenu. Hein. Je m'excuse vraiment platement. Je suis vraiment désolé, c'est ma très grande faute. C'est pas mal, hein. En fait, je suis à la CCI pour monter ma boîte. J'entre de plein droit dans la Startup Nation. Et le secret des startups qui réussissent, c'est mieux vaut demander pardon que demander la permission. Du coup, je m'entraîne, je pose des lapins et après, oups, pardon. Voilà, c'est ça le style premier de cordée. Ça donne peut-être l'impression que je me fous de la gueule du monde, mais vu que je me suis excusé platement, ce serait mesquin de se plaindre. On n'est pas toujours obligé de s'excuser pour réussir. Hein. Par exemple, Elon Musk, qui nous spamme actuellement l'orbite avec ses satellites Starlink, aurait réagi au tollé autour de la pollution lumineuse par un laconique « Les astronomes, combien de divisions ?» Mais je me suis dit que quand même, si on n'a pas besoin de s'excuser, c'est souvent le signe qu'on ne disrupte pas assez. On reste gang petit. Moi, j'admire le boulot d'un mec comme Zuck. Il s'excuse vraiment bien et fait ça souvent. Pour les ignares restés bloqués au stade analogique, qui ne savent pas de qui je parle, Zuck, c'est Mark Zuckerberg, le patron data énurétique de Facebook. Tout le monde sait ça, normalement. Il faut vous sortir le digital du cul. Oups, pardon. Je m'excuse. Récemment, on a découvert qu'Avast, le célèbre éditeur d'antivirus, collectait plein d'infos personnelles pour les revendre. Comme l'affaire a fait scandale, le patron d'Avast a arrêté et s'est excusé. Oups, pardon. Mais mon modèle, c'est Travis Kalanick, l'amer ex-patron d'Uber. Uber a fait tous les coups pourris possibles avec son appli. C'est tellement puissant de maîtriser un système d'information de bout en bout quand on n'a aucune limite morale. S'ajoute à ça des scandales variés mêlant violences sexuelles, discrimination et tentatives de corruption. Ça a été un festival d'excuses jusqu'à la démission de Kalanick. Sa fortune est estimée à 6,1 milliards d'euros, alors qu'Uber n'a jamais fait le moindre bénéfice. Excusez du peu. Mais là où Uber a atteint un niveau supérieur, c'est quand il a tué une piétonne avec son véhicule autonome. Comme l'intelligence approximative de la bagnole n'arrivait à rien, tous ses curseurs d'alerte avaient été mis à zéro ou presque. Il fallait montrer aux investisseurs qu'elle pouvait rouler plus de 10 mètres sans planter un coup de frein. En conséquence, la bagnole avait bien détecté un truc louche durant les 6 secondes précédant l'impact, mais n'a ni dévié ni freiné. Des excuses et un gros chèque ont permis à Uber d'éviter le procès. J'admire également Practice Fusion, qui propose un service d'aide à la prescription pour les tout-bibs américains. L'éditeur a avoué avoir touché 1 million de dollars pour favoriser la prescription d'antidouleurs, apportant ainsi sa pierre à l'édifice de la crise américaine des opioïdes, qui a fait 300 000 morts en 20 ans. Bien sûr, la boîte a écopé d'une grosse amende, mais on ne parle d'aucune mise en cause personnelle. Je suis fan aussi de Dennis Muilenburg, l'ancien DG de Boeing, qui a démissionné, non pas parce que le 737 Max a tué 340 personnes, en quelques mois en se crachant deux fois, mais parce que l'avion est cloué au sol depuis bientôt un an et que la compagnie perd une fortune. La sécurité du nouvel avion avait été bâclée sous la pression des financiers. Boeing avait même désactivé à distance l'alarme de dysfonctionnement du système fautif après le premier crash pour rendre l'option payante. Muilenburg se sera fait 21 millions d'euros à la tête de Boeing, c'est moins qu'Alanic, mais 347 morts, c'est quand même pas rien. C'est ça mon vrai objectif de réussite. Tuer des gens sans en subir les conséquences. C'est l'achèvement ultime pour quiconque suit ce principe de demander pardon plutôt que la permission. Et ce qui me met une larme à l'œil, c'est que ce principe est lui-même une entourloupe. Les premiers de cordée ne demandent pas pardon, ils s'auto-absolvent en s'excusant eux-mêmes. On reconnaît les purs de dur à ce qu'ils parviennent à dissoudre la morale dans le business. Et finalement, gagner des millions, c'est médiocre. Si à 50 ans, on n'a pas tué impunément, c'est qu'on a quand même raté sa vie.
Bah écoute, merci Luc. Alors, sans vouloir trop dévoiler des infos sur personnel te concernant, je te donne rendez-vous dans 2 ans pour savoir si t'as ta vie ou pas, donc.
C'est ça comme ça. Oui.
Alors moi, je suis dans ma 50e année, donc on verra assez rapidement si je réussis ou pas ma vie. Donc en tout cas, merci de Luc. C'était la chronique, la pituite de Luc. Donc sur le thème, mieux vaut demander pardon que demander la permission. Et le site de Luc avec un K, c'est incroyableluc.org. Et peut-être qu'on aura Luc le mois prochain en studio, mais je commence vraiment à désespérer. Donc en tout cas,
la prochaine fois, c'est la bonne.
La prochaine fois, c'est la bonne? Bon, bah écoute, alors rendez-vous la prochaine fois. Et de toute façon, la prochaine fois, si tu ne viens pas, je ne te prendrai pas au téléphone, je te préviens. Je te souhaite en tout cas une belle fin de journée. Et au mois prochain, donc.
Merci. Ouais. Salut tout le monde.
Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces.
Alors d'abord, tout à l'heure, donc ma collègue Isabella Vanni était présente en studio pour sa chronique. Eh bien, elle animera la réunion du groupe de travail sensibilisation de l'April, donc jeudi 20 février 2020 à la FPH dans le 11e arrondissement. Accueil à partir de 18h30. Les informations sur le site de l'april.org. C'est dans le cadre de la soirée de contribution au Libre d'ailleurs qui est organisée chaque jeudi soir à la FPH. On a parlé tout à l'heure de Nextcloud donc avec Nina Cercy et François Poulain. Le samedi 22 février de 10h à 12h. Alors, avant d'œuvrer les Nancy, dans la fabrique collective de la culture libre, médiathèque Jules Verne, il y aura une matinée consacrée à Nextcloud, un outil collaboratif. Donc, n'hésitez pas à y aller. À la porte de Versailles, à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Eh oui, dans le cadre du Salon de l'Agriculture, du vendredi 21 février au dimanche 23 février, il y en a un hackathon pastoral qui va être organisé, donc n'hésitez pas à vous rendre. Je suppose que c'est donc un stand. Et le site web, c'est hackathon-pastoral.com. Donc, hackathon, c'est avec HACKATHON. Vous avez tous les autres événements sur le site de l'agenda du libre, l'agendadulibre.org, qui je vais rappeler quand même que donc récemment, comme l'a dit François Poulain, donc le site du Chapril comporte deux nouveaux services libres. Donc on a beaucoup parlé de Nextcloud, donc le site, si vous voulez le tester, c'est valise.chapril.org, mais il y a un deuxième service qui a ouvert, qui est un service de simple partage de fichiers rapides. C'est drop.chapril.org. Vos fichiers, excusez-moi, sont chiffrés sur votre navigateur et donc la confidentialité de vos données est maximale. Et le service est basé sur le logiciel libre Firefox Send. Donc n'hésitez pas à tester et vous retrouvez l'ensemble des services sur chapril.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, donc Isabella Vanier, Tristan Duval, Nina Cercy, François Poulain. Je ne sais pas s'il faut remercier Luc qui nous a encore posé un lapin, mais bon, on le remercie quand même. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également à Sylvain Kutzmann qui s'occupe de la traitement des podcasts. Et j'en profite pour signaler que nous faisons un appel pour trouver des gens pour nous aider à traiter les podcasts, parce que Sylvain s'en occupe chaque semaine. Donc si vous avez envie de l'aider à traiter les podcasts pour améliorer leur qualité avant leur mise en ligne, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Faites-la connaître et faites également connaître la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu mardi 25 février 2020. Le sujet long ne sera pas en direct. Nous l'avons enregistré récemment. Et il portera sur le burn-out dans le domaine professionnel, avec notamment le témoignage assez rare d'un développeur libriste qui nous fait un témoignage donc sur son burn-out et sur sa reconstruction de vie. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.